m'a beaucoup accompagnée aussi au début où je réfléchissais à partir faire de la théologie. Merci. Petit clin d'œil comme ça. Voilà. Donc, voilà, j'aimerais commencer cette prédication par une question. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous, mais moi, parfois, je me demande, mais est-ce que je suis vraiment assez bien pour annoncer l'Évangile? Est-ce que j'ai toutes les capacités qu'il faut? Est-ce que les difficultés que je peux rencontrer parfois ne me disqualifient-elles pas? Vous allez vous dire, ça fait bien des questions pour quelqu'un qui se présente pour un poste pastoral quand même. Mais voilà, je pense que voilà, c'est des questions qu'on peut rencontrer tous à certains moments dans notre vie et que c'est important d'y réfléchir aussi. Et pour faire ça, je vous propose de lire un texte que j'affectionne beaucoup et de l'étudier ensemble. C'est un texte qui se trouve en 2 Corinthiens 4, les versets 1 à 15. Vous le trouverez aussi au verso de la feuille que vous avez reçue à l'entrée du culte, normalement. C'est un texte dans lequel l'apôtre Paul parle de sa conception de son ministère et je pense plus largement de la conception de sa conception du témoignage chrétien. Je lis en 2 Corinthiens 4, les versets 1 à 15. Ainsi donc, puisque par la bonté de Dieu, nous avons ce ministère, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les actions honteuses qui se font en secret. Nous ne nous conduisons pas avec ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître clairement la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiétés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous, dans notre corps, l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps mortel. Ainsi, la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi que celui qui a été exprimé dans cette parole de l'Écriture, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé », nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par lui et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Oui, tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder la reconnaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu.
Donc, dans ce passage, Paul jette un regard sur son ministère d'apôtre. Pas seulement sur le sien, il s'exprime en nous, d'une part parce qu'il écrit cette lettre en commun avec Timothée, mais aussi, je crois qu'il inclut dans sa compréhension du ministère tous ceux qui participent avec lui à annoncer l'évangile fidèlement. Et je crois qu'on ne trahit pas sa pensée si on s'inclut nous aussi dans ce nous en tant que chrétiens qui cherchons à être témoins de l'évangile. Et une des grandes insistances de Paul, c'est que l'important est en Jésus-Christ et pas dans sa propre personne. Paul souligne qu'il a son ministère par la bonté de Dieu. On pourrait presque traduire par la pitié de Dieu. Paul n'a pas mérité son ministère. Il a été appelé par grâce et pour la gloire de Dieu. C'est Dieu qui a fait briller sa lumière dans le cœur de Paul pour faire connaître sa gloire. C'est Dieu qui s'est fait connaître à Paul pour qu'il puisse par la suite annoncer son évangile. Dans le cas de Paul, ça s'est passé particulièrement Quand Paul était en chemin vers Damas pour persécuter les chrétiens et que Jésus lui est apparu pour se faire connaître à lui et l'appeler à être apôtre. Mais je crois que c'est aussi le cas pour tous les chrétiens, que si nous avons quelque chose à dire, c'est parce que Dieu s'est fait connaître à nous. Parce que Dieu est venu nous chercher, alors on peut aussi parler de son évangile. Virginie en parlera plus tout à l'heure, mais c'est le principe de ce qui est dit au verset 13. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous parlons parce que Dieu nous a donné la foi en son nom. Et c'est aussi pour cela que Paul affirme avec force, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Le contenu du message n'est pas dans la personne des messagers. Le message de Paul n'est pas « Voyez comme je suis génial. Voyez quel grand apôtre je suis. » Paul sait que ce n'est pas lui qui peut sauver. Paul sait que le salut des gens ne dépend pas de leur opinion de Paul. Et c'est quelque chose à retenir pour notre témoignage au monde. Parce qu'on peut être tenté de vouloir montrer au monde autour de nous combien les chrétiens sont bons, combien les chrétiens font des bonnes choses, et de passer notre temps à défendre le comportement des chrétiens au cours de l'histoire. Et ce n'est pas forcément mal de chercher à donner une bonne image. En tout cas, c'est bien de chercher à bien se comporter aux yeux du monde. Mais ce n'est pas ça le vrai but, ce n'est pas ça le vrai contenu du message. Parce que comme chrétiens, nous avons admis que nous n'avions rien pour plaire à Dieu, que nous ne méritions pas de salut, mais que Dieu nous l'a donné dans sa bonté. Notre but, c'est que les gens voient la grandeur de l'amour de Dieu. Ce n'est pas qu'ils voient combien nous sommes des gens bien. Et ça me fait penser à une petite histoire que j'ai entendue. C'est un chrétien qui travaille dans une entreprise. Puis un jour, à la pause café, ses collègues viennent vers lui et lui disent « On se pose une question, on voulait en parler avec toi. On a un peu observé comment tu es, comment tu vis. Et puis, tu es honnête, tu es aimable. Tu ne cherches pas ton enrichissement personnel. Tu es compréhensif et encourageant. » Alors on a réfléchi d'où ça vient. On s'est dit que tu devais sûrement être bouddhiste. Dans cette histoire, le comportement du chrétien était bon, et ça serait bien qu'on puisse dire la même chose de chacun de nous, même si c'est difficile et qu'on n'atteint pas tous ce niveau-là. Mais ce qui est tragique, c'est que s'il n'y a que le comportement du chrétien, on ne sait pas que c'est à Jésus qu'il faut rendre gloire pour sa manière d'agir. Et ce que les gens retiennent n'est pas ce qu'ils ont vraiment besoin de voir. Donc, c'est bien d'avoir un bon comportement, mais il faut aussi pouvoir témoigner de Jésus-Christ et pouvoir rattacher ça à Jésus et à ce que lui fait en nous. C'est la seule chose que les gens voient, c'est notre caractère et notre comportement, il manque le cœur du message. Je crois qu'on peut aussi tirer de ce passage un enseignement pour les rapports entre les églises et leurs pasteurs. Parce que ça peut être tentant pour une église qui a un bon pasteur de le mettre sur un piédestal et puis d'en parler tout alentour en disant « Regardez comme notre pasteur est bien ». Et c'est aussi tentant pour un pasteur de vouloir être reconnu et d'être bien vu au travers de son ministère. Et pour nous aujourd'hui, il serait tentant de chercher à ce que vous ayez une bonne opinion de nous au sortir de cette prédication. Et ça serait faux de dire qu'on échappe entièrement à cette tentation. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, le vrai but, c'est que vous reteniez combien Jésus-Christ est génial et combien le message de l'Évangile est magnifique. Et c'est ce que Paul dit aussi. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Le contenu de sa prédication, c'est Jésus-Christ et sa personne. Il dit que l'Évangile fait rayonner la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Dieu s'est fait connaître par Jésus-Christ. La gloire de Dieu est visible dans la personne de Jésus. Dieu n'est pas visible par des yeux humains. Naturellement, nous ne voyons pas Dieu. Mais Dieu s'est fait connaître en Jésus-Christ, en devenant un homme marchant sur cette terre. Dieu a montré qui il est en Jésus. En Jésus, Dieu a démontré son identité personnelle. Et si l'on veut connaître Dieu, il faut regarder Jésus-Christ. Et dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul écrivait aussi « J'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Tout ce que Paul avait à dire et à transmettre est en Jésus-Christ et dans sa mort sur la croix. Jésus est mort sur la croix pour réconcilier l'humanité avec Dieu. L'humanité est en révolte contre Dieu. Elle est séparée de Dieu par toutes ses mauvaises actions. Dieu ne peut pas voir le mal, et le mal que nous commettons nous éloigne de lui. Mais Dieu a enjambé ce gouffre pour venir en Jésus-Christ, et pour venir mourir et payer le prix de tout le mal commis par les hommes. Tous ceux qui reconnaissent leurs fautes et qui croient en Jésus, qui acceptent que Jésus est mort pour eux, peuvent être réconciliés avec Dieu, peuvent retrouver la communion avec Dieu que nous sommes tous faits pour avoir. Voilà le message que Paul prêche. Voilà ce qui doit retenir toute l'attention de ses auditeurs. Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. Dieu venu sur terre pour nous réconcilier avec lui. Et nous aussi, à la suite de Paul et de tous les témoins du Christ, nous devons être messagers de cette offre de réconciliation. Et ce n'est pas seulement le cas de ceux qui sont pasteurs ou évangélistes, mais tous ensemble, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à témoigner de Jésus. Là où nous sommes, dans nos conversations, dans notre travail, avec nos amis, dans nos relations avec la société qui nous entoure, dans notre manière de vivre l'Église, nous sommes appelés à être témoins de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et dans son ministère, Paul veut rendre le message de l'Évangile le plus visible possible. Paul veut être transparent, laisser voir ce message sans détourner l'attention. Et Paul insiste aussi qu'il n'a pas employé de méthode malhonnête dans sa proclamation de l'Évangile. Il n'a pas modifié le message pour le rendre plus attractif. Il n'a pas employé de ruse. Il n'a pas eu recours à des actions honteuses, à des manières d'agir qu'il aurait voulu garder secrètes. Et ça doit faire partie de notre idéal dans le témoignage de l'Évangile. Refuser de prêcher un autre message et refuser de tricher de n'importe quelle manière. Et par exemple, si nous présentons l'Évangile en disant que Jésus va résoudre tous les problèmes des gens, ou si nous attendons que les gens soient devenus chrétiens pour leur parler des difficultés dans la vie chrétienne, ou pour leur dire que croire en Jésus risque aussi d'impliquer des changements dans leur manière de vivre. Si nous attendons que les gens soient venus chrétiens pour leur parler de tout ça, nous leur présentons un message tronqué. Nous sommes quelque part en train de tricher, en train de ne leur donner que la partie dont on pense qu'elle va leur plaire. Et c'est le genre de méthode que Paul dit vouloir écarter et que nous devons tous écarter. Nous devons reconnaître tout le message de l'Évangile avec vérité, avec transparence, et faire confiance à Dieu pour que les gens y croient, sans chercher une manière plus facile de convaincre les gens. Et Paul souligne aussi qu'il prend une attitude de serviteur. À cause de Jésus, il se met au service de ceux à qui il annonce l'Évangile. Et de la même manière, ceux qui dirigent dans l'Église se font les serviteurs des autres. C'est Jésus qui est le Seigneur, et les messagers sont des serviteurs. Mais cependant, si les messagers du Christ sont des serviteurs, c'est à cause du Christ. et ça ne fait pas des autres leur Seigneur. C'est pas parce que on se met au service les uns des autres que les autres deviennent nos seigneurs. Et ça rejoint aussi ce que Paul dit. Nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Paul est prêt à ce que son comportement soit évalué par les hommes. Il n'a rien à cacher. Mais il précise que ça se passe devant Dieu. Parce que c'est Dieu son juge ultime. C'est Dieu qui a le dernier mot sur la qualité du travail et de la vie de Paul. Comme pour chacun de nous. Et c'est aussi important pour nous comme candidats pasteurs. Nous voulons nous mettre à votre service au nom de Jésus. Mais c'est Jésus qui est le Seigneur et nous essayerons de ne pas faire de vous la mesure ultime de notre valeur et de la réussite de notre ministère. Et c'est vrai aussi pour chacun de nous. Quoi que nous fassions, nous sommes appelés à être serviteurs les uns des autres. Mais nous ne devons pas laisser la reconnaissance que nous montrent les autres devenir notre carburant et notre raison pour servir. Sinon, nous risquons de ne plus faire ce qui est juste devant Dieu, mais de faire ce qui plaît aux autres dans l'Église. On risque aussi de trouver qu'on ne nous montre pas assez de reconnaissance. On risque d'être frustré, fâché ou déçu à chaque fois que quelqu'un ne sera pas complètement satisfait du service que nous avons. Et c'est pourquoi il nous faut servir les autres, mais au nom de Jésus, en faisant de Jésus la source de notre valeur et la mesure ultime de la réussite de ce que nous faisons.
Nous venons de voir le contenu essentiel du message de l'Évangile et aussi la manière dont cet évangile est annoncé. Dans un deuxième temps, je vous propose de nous pencher un peu plus sur le messager lui-même et sur son vécu. Paul écrit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. » Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Le trésor incroyable et immense qu'est l'évangile, nous le portons dans les vases fragiles que nous sommes. Un vase de terre, à la base, n'a rien pour attirer le regard. On pourrait passer à côté. C'est quelque chose qui se brise facilement. Et pourtant, c'est dans ce vase de terre-là que se trouve le plus grand trésor du monde. Comme Jean-René l'a déjà dit, le chrétien ne se prêche pas lui-même. C'est Jésus-Christ qu'il prêche. Et imaginez pour un instant le vase de terre qui essaye d'attirer toute l'attention sur lui-même, qui se promène en disant « Regardez quel beau vase je suis » et tout ça. Les gens vont finir par un peu secouer la tête et dire « C'est bon, c'est un vase de terre ». Ce serait un peu comparable à quelqu'un qui prépare un magnifique repas gastronomique et qui le sert sur de la vaisselle Ikea et qui passe tout son temps à essayer d'attirer l'attention des gens sur l'assiette. Ça n'aurait aucun sens. On passerait à côté de l'essentiel. Et pour tous, ce serait un peu la même chose si, au lieu d'attirer l'attention sur l'évangile, nous attirions toute l'attention sur nous. Et Paul continue en disant ce contraste entre la fragilité et la non-centralité, on pourrait dire, du messager et le trésor qu'est l'évangile a un but bien précis. Il dit c'est afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. La puissance de l'évangile pour transformer des vies, la puissance de l'évangile pour permettre à Paul de continuer à annoncer ce message malgré les difficultés qu'il rencontre, cette puissance de l'évangile pour nous permettre de continuer à persévérer dans la foi malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer, cette puissance, elle ne vient pas de nous. Cette puissance, elle vient de Dieu. Et je suis désolée si je vous l'apprends aujourd'hui, mais Paul n'était pas un super-héros, si on peut dire. Paul était un être humain comme nous. Et moi non plus, je ne suis pas un super-héros. Nous ne sommes pas des super-héros. Mais j'ai envie de dire, c'est pas grave. c'est pas ça le but. Le centre n'est pas là. Parce que la puissance de l'évangile, la puissance du message, elle vient de Dieu. Et Paul continue par illustrer ça en disant, voilà, nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiétés, mais non désespérés, persécutés, mais non abattus, abandonnés, abattus, mais non anéantis. Bon, en résumé, il dit, ben voilà, nous vivons beaucoup de difficultés, mais ces difficultés ne nous détruisent pas. Ces difficultés ne nous séparent jamais de Dieu. J'ai oublié de dire, voilà, dans toutes ces difficultés, Dieu, par sa puissance, nous délivre et nous permet de continuer à avancer. Quand nous connaissons la vie de Paul, beaucoup d'exemples peuvent nous venir à l'esprit, et je vais juste en donner un. Voilà, un jour, Paul était à Philippe, il annonçait l'évangile, et là, il est accusé de troubles à l'ordre public. Les autorités le saisissent, le battent et le jettent en prison. Et là, au fond de sa prison, lui et Silas, qui a aussi été mis en prison avec lui, prient et louent Dieu. Au milieu de la nuit, survient un tremblement de terre, les portes s'ouvrent, les chaînes tombent de leurs pieds et de leurs mains de manière miraculeuse. Et toute cette histoire aboutira à la libération de Paul et Silas, mais aussi à la conversion du geôlier et de toute sa famille. Voilà, nous pouvons voir que, en effet, le ministère de Paul n'a pas été facile. Il a pu vivre beaucoup de persécutions, beaucoup de rejets, mais Paul n'a jamais été abandonné par Dieu. Les difficultés qu'il a vécues ne l'ont jamais anéanti ni écrasé, et il n'a pas cédé au désespoir. Mais tout cela, pas parce qu'il était quelqu'un d'incroyable, mais parce que Dieu est quelqu'un d'incroyable. Parce que Dieu, dans sa grâce, a toujours été fidèle et ne l'a jamais, jamais abandonné. Paul poursuit aussi en liant son vécu à celui du Christ. Il voit un certain parallèle entre l'agonie de Jésus et ses propres difficultés, mais aussi entre la vie du Christ et la délivrance qu'il peut expérimenter. Il voit que tout comme Jésus a souffert pendant sa vie terrestre, Paul lui aussi souffre. Mais, la vie de Jésus ressuscité opère aussi en lui une délivrance dans ses détresses. Nous pouvons nous dire que la situation de Paul est bien particulière. Ses difficultés étaient en grande partie liées à l'annonce de l'Évangile. Mais je pense que le principe de base, il reste valable pour nous tous aujourd'hui aussi. Quand nous rencontrons des difficultés parce que nous sommes chrétiens, mais aussi quand nous rencontrons des difficultés simplement liées à la vie humaine, qui n'est pas toujours facile, eh bien nous pouvons être sûrs que dans l'épreuve, Dieu ne nous abandonne pas et nous pouvons placer toute notre confiance en lui parce que lui est fidèle. Nous savons que nous ne serons jamais abandonnés par Dieu. De plus, les difficultés que nous rencontrons, loin de nous disqualifier, peuvent même permettre à la puissance de Dieu de se manifester d'autant plus clairement. C'est aussi au moment où nous reconnaissons que nous sommes faibles, que par nous-mêmes, nous ne nous en sortirons pas, que Dieu peut agir avec toute sa puissance. Voilà, nous avons vu les difficultés que Paul a pu rencontrer, et moi, il y a toujours une question qui me vient à l'esprit, c'est dans un certain sens, mais pourquoi il a continué à annoncer l'évangile si c'était aussi difficile? Pourquoi il n'a pas dit un jour, bon, on m'a fouetté, on m'a mis en prison, on m'a lapidé, j'ai fait naufrage, ça suffit, j'arrête. Qu'est-ce qui a motivé Paul? Et je pense que la clé se trouve dans les derniers versets du passage que nous avons lu. Alors, la première chose que Paul dit, c'est « Nous croyons, c'est pourquoi nous parlons ». Paul a cru à l'évangile, il ne peut pas s'empêcher d'en parler. Ailleurs, il écrit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile ». Oui, Paul a découvert le plus grand trésor du monde, un trésor qui a transformé sa vie, et un trésor dont il sait qu'il peut transformer la vie des autres gens. Comment ne pourrait-il pas en parler? Le message de l'évangile est beaucoup trop magnifique, est beaucoup trop important pour que nous puissions le taire. Ça serait comparable à quelqu'un qui découvre un remède à toutes les maladies du monde et qui décide de ne pas le partager. Ça serait égoïste. Ça serait triste. Ça nous semblerait inadmissible. Et je suis convaincue que l'Évangile, c'est ce dont le monde a fondamentalement besoin. Les gens ont besoin d'entendre parler de Dieu. Ils ont besoin d'entendre parler de Jésus qui est venu. Ils ont besoin d'entendre parler de la possibilité d'être réconciliés avec Dieu. Ils ont besoin de ce message d'amour et de pardon qu'est l'Évangile. Et c'est à nous de le partager. Nous pouvons le partager là où nous sommes. Il n'y a pas besoin d'être pasteur ou évangéliste. Beaucoup le partageront aussi de manière peut-être plus discrète, mais pas moins importante. Beaucoup partageront l'Évangile dans des relations personnelles, avec des amis, dans leur famille, sur leur lieu de travail. Et c'est tout aussi important que de le prêcher publiquement, je suis convaincue. Voilà. Et la deuxième chose qui motive Paul, c'est qu'il n'a pas les yeux fixés uniquement sur cette vie terrestre. Il a les yeux fixés plus loin. Il a les yeux fixés sur la résurrection. Paul est convaincu, et nous sommes convaincus, qu'un jour, tous ressusciteront, et qu'alors, nous serons tous ensemble dans la présence de Dieu pour toujours. La vie ici-bas, bien qu'elle soit importante, n'est pas le but ultime en soi. Paul sait que s'il meurt, Dieu le ressuscitera et qu'il sera avec Dieu, avec Jésus-Christ, pour l'éternité. Et cette assurance, c'est la même pour nous aujourd'hui. Quoi qu'il nous arrive, nous pouvons être sûrs qu'un jour, Dieu nous ressuscitera et que nous serons avec lui pour toujours. Et c'est ça aussi qui motive à annoncer le message de l'Évangile. C'est-à-dire que, voilà, ce ne sera pas que nous, mais ce sera tous ensemble qui aurons cru à ce message. Et je pense que c'est là aussi que se trouve la joie fondamentale de Paul d'annoncer l'Évangile. Il sait que les gens qui recevront ce message seront avec Dieu pour l'éternité. Paul termine par rappeler le but final de l'annonce de l'Évangile et des souffrances qu'il a pu traverser à cause de cela. Et le but final n'est pas la personne de Paul, encore une fois, mais c'est Jésus-Christ, c'est Dieu et c'est sa gloire. Il dit que le but, c'est que de plus en plus de personnes joignent leur voix à la louange qui est adressée à Dieu, que de plus en plus de personnes croient en Jésus-Christ et que finalement tout cela glorifie Dieu. Et voici, je pense, la vision glorieuse qui devrait nous motiver dans tout ce que nous faisons, qui devrait nous encourager à continuer à annoncer l'Évangile. C'est cette vision d'une foule nombreuse qui élève sa voix pour louer et pour glorifier Dieu.
Avec ce texte de l'apôtre Paul, nous avons pu parler de sa vision, du ministère, du témoignage chrétien. Nous avons vu que pour lui, les difficultés font partie de la vie et qu'elles ne nous mettent pas hors jeu pour le témoignage de l'Évangile. Au contraire, dans nos faiblesses, Dieu nous vient en aide et manifeste sa puissance. Nos limites nous empêchent aussi de faire de l'ombre au message de l'Évangile. Elles rendent clair que tout vient de Dieu et non de nous. Le message chrétien ne repose pas en nous-mêmes, ni dans la qualité de nos vies, ni dans nos capacités. Le message est tout entier en Jésus-Christ. Dieu venu jusqu'à nous. Dieu venu souffrir pour nous sauver. Dieu qui s'est fait faible pour nous transformer. Dieu venu mourir pour nous réconcilier avec lui. Dieu qui a fait briller sa lumière dans nos cœurs pour que nous croyions en lui et que nous en témoignions. Et ce message ne repose pas sur notre capacité ou notre dignité. Ce message repose sur la grandeur et la bonté de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin d'être des surhommes pour partager l'Évangile. Nous n'avons pas non plus besoin d'être tous pasteurs, théologiens ou quoi que ce soit. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits ni d'être impressionnants. La puissance repose tout entière en Jésus-Christ et dans le message de l'Évangile. Et nos faiblesses sont plutôt l'occasion de faire ressortir ce message, de détourner l'attention de nous pour diriger les regards vers Jésus-Christ. Alors, témoignons simplement et honnêtement de l'Évangile. sans nous laisser arrêter par le sentiment de notre faiblesse ou par nos difficultés, mais en fixant les yeux vers la résurrection finale et vers la grande foule de témoins qui rendra gloire à Dieu dans l'éternité. Que Dieu continue à nous venir en aide.